Le paysage du cinéma français est parfois si sinistre que le fabuleux destin d'Amélie Poulain, petite horreur condescendante jaune d'or et vert bouteille, a pu passer autrefois pour un film joyeux, une comédie légère. J'entends encore, presque 20 ans après, la lourde cuillère du kitsch et des bons sentiments s'abattre méchamment sur le Montmartre caramélisé de Genet. C'était l'année où j'étais rennais et cinéphile. J'allais presque tous les jours à l'Arvor pour les nouveautés ou au TNB pour les rétrospectives. C'est là que j'ai vu presque tous les Truffaut, les Godard, les Lynch et les Kurosawa. J'ai dû voir 200 films en un an, chiffre pas si spectaculaire aujourd'hui, mais c'était avant Netflix, avant le streaming et avant les torrents. J'avais pris mon vélo à chaque fois et j'avais soigneusement conservé mes tickets dans une boîte de métal. Je vivais seul en CTU et je ne parlais quasiment à personne. J'évitais même la cuisine collective et j'allais aux rues à l'ouverture pour croiser le moins possible de monde. Je devais dégager une telle impression de solitude qu'un étudiant togolais et un étudiant cambodgien, clairement plus déracinés que moi, se sont successivement installés compatissant à ma table. Je me faisais peut-être alors des idées extrêmes du singularisme breton. Mon année cinéphile avait été en tout cas marquée par un effondrement à peu près complet de mes facultés sociales. Je ne me serais fait ainsi qu'un seul ami pendant l'année, un ami cinéphile évidemment, aperçu à la fac et à la rétrospective Godard, mais nous avions attendu de voir ensemble Le Cercle de Jafar Panahi pour nous parler enfin. Nous avions détesté. La cinéphilie sérieuse est ainsi pleine de petits désastres et de déceptions iraniennes. Mais c'est cette année que j'ai vu Chose secrète de Brissot et que j'y suis retourné deux fois. Je n'avais vu ni Noce blanche, ni De bruit et de fureur. Brissot était absolument nouveau pour moi et révolutionnaire. Le film resterait, je le découvrirais au fil des années en sortant de ma torpeur rennaise, un mystérieux talisman pour les cinéphiles de ma génération. J'ai eu plusieurs amoureuses et plusieurs amis qui en avaient fait. Je le découvrirais peu à peu pendant les années qui suivirent cette révélation, qu'il l'avait vu alors et qui le tenait pour un chef-d'œuvre. J'ai même fini, premier véritable climax de ma vie parisienne, par rencontrer un soir une amie d'amis d'amis, Sabrina Sevecou, son héroïne cinégénique et brune, place de la Sorbonne. C'était extrêmement troublant. Elle était blonde, pardon. Car si Chose secrète était un film d'une ambiance... Je me suis trompé dans la couleur de cheveux, pardon. Car si Chose secrète était un film d'une ambition folle, à la fois grand film chrétien sur le diable et grand film marxiste qui racontait l'ascension sociale de deux femmes, c'était aussi, et peut-être avant tout, un film érotique. On oubliera difficilement la scène onaniste du métro et celle des marches de l'opéra. Les deux actrices, sublimes, la brune et la blonde, ne portaient rien sous leur manteau et découvraient que le sexe était comme une clé qu'elles utiliseraient bientôt pour crocheter la société, l'orgasme, dans cette théorie que cet orgueilleux film tentait peut-être d'opposer au marasme psychanalytique et marxiste du temps, était traité comme une sorte de capital. Semblable en cela à cet autre chef-d'œuvre de l'époque, Showgirl de Verhoeven, cette étude de mœurs, elle aussi éminemment balzacienne, du destin d'une stripteaseuse, Chose secrète n'était un film érotique qu'en apparence. C'était plutôt à Las Vegas ou dans les palaces du Triangle d'Or parisien, une plongée brutale dans les eaux froides du calcul égoïste, le sexe comme une lecture de Marx en apnée. Et c'était cette ambition aussi qui rendait Chose secrète si touchant, avec son budget ridicule et ses acteurs de téléfilms, ses bureaux gris de multinationales aux moquettes décollées, ses hôtels particuliers dont seules les grilles extérieures avaient pu être filmées, Chose secrète aurait dû être un film raté. Chose secrète n'était en fait sauvée que par son ambition et son lyrisme. Ses partouts un peu kitsch nous parlaient d'autre chose, de la damnation et du mal, comme de ce terrible paradoxe que si les ascensions sociales sont vaines, les chutes sont toujours insoutenables. Le film montait même par moments jusqu'à l'horreur inattendue, avec ce personnage fabuleux et démoniaque, de milliardaire devenu matérialiste en veillant autrefois enfant pendant des jours impardonnables, le cadavre pourrissant de sa mère. En repensant à tout cela au lendemain de la mort de Brissot, je réalise ce qui nous avait tant marqué chez lui, une issue salutaire et métaphysique à ces lancinantes maladies du cinéma français, la vraisemblance et la justesse.